Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive De Gaulle, vive la République.
Monsieur Barthélémy Boganda, président du Grand Conseil de l'AEF, vient de prononcer une courte allocution.
Nous sommes le 22 avril 1958. Le général de Gaulle, après Madagascar, est à Brazzaville. Il poursuit sa tournée africaine pour faire campagne pour le référendum sur la communauté, le cadre de la nouvelle conception des rapports de la France avec les peuples africains qui lui sont associés. À Brazzaville, ville symbole pour l'homme du 18 juin 40, cité d'où sont partis la même année les forces africaines de l'Empire, c'est le président du conseil de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, Barthélémy Boganda, militant, combattant infatigable de l'émancipation de son peuple, qui a déjà exhorté un certain nombre de personnes à voter pour le non à la communauté, qui prend la parole pour demander au président du conseil du gouvernement français d'expliquer son projet de communauté, d'être plus clair. Le général de Gaulle, qui ne le connaît pas assez, va donc se livrer à un exercice qu'il affectionne.
Quelle proposition ? Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous ? C'est celui de la communauté. Cette communauté aura des institutions. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt.
Après cette rencontre, après ce passage du général de Gaulle à Brazzaville, le président du conseil Barthélémy Boganda décide de réunir les siens le 7 septembre 1958 au cinéma Rex à Bangui pour leur donner sa position, pour leur expliquer pourquoi il faudra voter oui en faveur de la communauté. Professeur Abel Ngoumba, un de ses principaux collaborateurs.
Mais à un moment donné, le général de Gaulle a fait solennellement la promesse que l'indépendance, celui qui voudra la prendre, pourra la prendre. La France ne s'y opposera pas. Et c'est là où il a dit, mon général, vous m'avez mis le bob au cœur, parce que je voulais voter non, mais comme vous avez dit qu'on peut prendre l'indépendance sans rupture avec la France,
Mais c'est quand même curieux, parce que c'est à peu près le même discours que tient Sékou Touré. Pourtant, les conséquences sont beaucoup plus dramatiques. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit accord quelque part ?
Oh, je ne crois pas. Pour Sékou Touré, évidemment, il y a sa phrase célèbre. Nous préférons la liberté dans...
Nous préférons la liberté dans la pauvreté dans plutôt la pauvreté
que
la richesse dans l'esprit.
Le Gérard de Gaulle, d'ailleurs. Oui, mais c'est une autre démarche. Évidemment, il a raisonné comme il a vu, parce que jusqu'ici, l'indépendance des pays soumis s'acquiert au prix du sang.
De notre série consacrée à cet orphelin recueilli par des missionnaires qui va devenir le premier prêtre de Lubangui-Chari avant de se retrouver dans la politique où il s'érige rapidement en défenseur de son peuple, en farouche combattant contre la colonisation et les violences faites aux siens. Malgré les embûches, le mépris, les injustices dont il fait l'objet, Barthélemy Boganda est en 1957 le président du Grand Conseil de l'AEF, c'est-à-dire le personnage le plus important de l'Afrique équatoriale française. C'est à ce titre qu'il prend d'ailleurs la parole lors de ce fameux passage du général de Gaulle à Brazzaville. Le 28 septembre 1958, Lubangui Chari dit oui à la communauté à 98,1% des suffrages. Boganda considère ce vote comme un vote pour l'indépendance. Après cette victoire, il se lance dans une autre aventure plus singulière, plus visionnaire ou utopiste à cette époque. Il veut, avant l'indépendance qui est devenue inéluctable, la création d'un État unitaire en Afrique centrale qui regrouperait Lubangui, le Tchad, le Congo et le Gabon, avant de s'étendre au Congo belge. Pour lui, la naissance de micro-États sous-peuplés et sans moyens est fatale au continent. Les frontières héritées de la colonisation ne correspondent pas à une réalité solide. Elles ne sont pas de nature à rendre ces micro-États viables face aux grands ensembles occidentaux. Barthélemy Boganda.
Je suis né congolais, je suis devenu Ubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de Lubangui Chari qui est devenu le mien. Mais encore une fois, je ne suis pas né Ubangien. Quand je suis né, ma région faisait partie du Moyen-Congo et il fut un temps où le territoire de Lubangui faisait un seul avec celui du Tchad, puisque nous avions eu le gouverneur de Lubangui Chari Tchad qui gouvernait un seul territoire. Du côté historique, ethnique et coutumier, nous avons des tribus identiques. Nous avons au Moyen-Congo, comme en Lubangui Chari, des mêmes tribus. Nous avons, et on peut même aller plus loin, à cheval sur le fleuve Ubangui, du côté français comme du côté belge, nous avons les mêmes tribus. C'est pour cela que le problème se pose, non seulement en territoire français, mais également en territoire belge, car une partie de ma tribu se trouve au Congo belge et une partie de certaines tribus du nord de Lubangui se trouve au Tchad. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré donner à la République de Lubangui l'étiquette de République centrafricaine, étant donné que tous ces territoires sont français, que même ceux du côté belge parlent la langue française, ont la culture française. Nous avons l'espoir d'en arriver un jour à faire un grand ensemble avec tout ce territoire qui, en somme, ont toujours été, sinon des mêmes tribus, du moins très voisins.
Et pourtant, les voisins qui appartiennent à la même tribu, qui ont de si fortes affinités, ne vont pas parvenir à s'entendre pour créer un grand État. L'idée de Boganda, aucun de ses voisins ne l'écoute. Le Tchad affiche sa différence, le Gabon veut devenir un département français. Seul le Congolais Jacques Opango veut le suivre dans cette aventure. Mais il n'en aura pas le temps puisqu'il est balayé par Fulbert Yulu, qui s'installe dans le fauteuil à Brazzaville. Boganda, isolé, est contraint de se résoudre à oublier, du moins momentanément, son idée de grande république centrafricaine. Le 1er décembre 1958, il devient le président du gouvernement de la République centrafricaine.
Il est tout de même surprenant que le territoire de Lubangui Chari, connu sous ce nom depuis une cinquantaine d'années, change brusquement d'étiquette et deviennent République centrafricaine.
C'est un symbole.
Cela est un symbole, vous avez parfaitement raison, car depuis la fondation du gouvernement général en AIF, il y a une cinquantaine d'années, les gouverneurs généraux ont eu soin de diviser l'AIF en plusieurs territoires confiés à un gouverneur. Nous avons le territoire du Moyen Congo, le territoire du Gabon, le territoire de l'Oubangui-Chari et le territoire du Tchad.
Mais ne croyez-vous pas que ça correspondait tout de même à des personnalités assez marquées? Je suis en train, vous venez d'évoquer par exemple le Gabon à un bout, le Tchad à l'autre. Je crois que, d'ailleurs que les problèmes qui se sont posés concernaient surtout la position du Gabon et celle du Tchad, n'est-ce pas? Et il y a véritablement une personnalité tchadienne. De même qu'il y a, et c'est là je crois que nous rejoignons le symbole que vous avez choisi, une personnalité centrafricaine, qui est d'ailleurs très large et qui, je crois, déborde l'Oubangui-Chari.
Il est exact que ce découpage correspondait à une certaine personnalité pour certains territoires. Le Gabon, par exemple, est absolument différent du Tchad. Le nord du Tchad est absolument différent du Moyen Congo. Mais quand on prend les territoires limitrophes tels que le Moyen Congo et l'Oubangui-Chari, il n'y a absolument pas de personnalité et de démarcation nette.
L'idée de l'unité des nations de l'ancienne Afrique équatoriale française plus le Congo belge, qui devait donner naissance à une grande république centrafricaine, n'était qu'une première étape dans les projets du président Barthélemy Bouganda. Pour lui, l'objectif final était ce qu'il a baptisé les États-Unis d'Afrique latine, un ensemble plus large, une union des territoires africains ayant en partage la culture et la langue latine à laquelle il était très très attaché. Quels étaient, professeur Abel Ngoumba, vous qui étiez un de ses plus proches collaborateurs, les pays qui devaient faire partie de cet ensemble latin?
Ce sont les pays colonisés par les peuples latins. Les peuples latins, que sont-ils? Il y a la France, hein? Il y a les Wallons quand même pour le Congo ex-belge, hein? Il y a
l'Angola,
les Portugais, avec le Mozambique, la Guinée-Bissau, l'Angola, et puis il y a l'Espagne, il y a la Guinée, donc colonisée par les Portugais. Il y a une petite cuisine latine là.
L'Angola, le Mozambique, la Guinée, le Congo belge, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Tchad et plus tard les autres pays latins de l'Afrique de l'Ouest. Si la France ne manifestait pas une grosse réticence à cette idée avant-gardiste, un peu décalée à l'époque, le Portugal de Salazar, lui, y était opposé. Il ne fallait même pas y penser. Professeur Abel Ngoumba était auprès du président Bouganda, l'un des artisans, des acteurs de ce projet.
Salazar, c'est Salazar, dit, mais écoute, la France, débrouille-toi avec tes colonies là-bas, laisse-nous tranquilles. Ne touche pas l'Angola ni à quoi que ce soit.
L'idée des États-Unis d'Afrique latine proposée par Barthélemy Bouganda va vite rencontrer des réticences internes. Chaque chef veut régner sur son territoire. Les pays sollicités ne veulent pas en entendre parler. Bouganda doit donc se résoudre à ne se consacrer qu'à la jeune République centrafricaine à qui il donne un drapeau qu'il a conçu, une devise, unité, dignité, travail. Et un principe, Zokwezo, tout homme est une personne. Il va même composer l'hymne national, la Renaissance évoquant la longue soumission, la misère de la population et la conquête à l'appel des ancêtres du droit à la vie.
Travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect.
6 décembre 1958, le président Barthélemy Bouganda présente au Centrafricain son gouvernement qu'il a limité à 6 ministres. Abel Ngoumba conserve son ministère des Finances et du Plan. Et David Dacko devient ministre de l'Intérieur. L'heure à la veille des fêtes de fin d'année 1958 est à l'élaboration, à la conception de la Constitution pour le jeune État.
Je veux également envoyer aux nouveaux États de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale, dont je fais partie moi-même, les vœux de nouvel an pour 1959, en souhaitant à tous de joyeux Noël. Noël veut dire fête de joie, fête de paix et fête d'affection. Famille éternelle, la communauté et les États de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale, à tous ces États, je souhaite l'unité, la solidarité et également beaucoup de courage pour mener à bien les responsabilités qui sont des nôtres aujourd'hui pour mettre nos États à l'unisson de la France afin de bâtir cette grande communauté qui doit être notre œuvre à tous.
Début 1959, Bouganda, qui reçoit de plus en plus de menaces de mort de la part de ses adversaires, se lance dans la nouvelle campagne pour les élections législatives fixées au 5 avril 1959. Même si en public il ne le montre pas, il est de plus en plus inquiet pour sa sécurité. Il connaît la plupart de ses adversaires, mais en raison de son idéologie non violente, ne veut pas utiliser sa position, son pouvoir, pour les anéantir, pour les neutraliser. Professeur Abel Ngoumba, l'un de ses principaux ministres.
Les principaux adversaires, bon, d'abord, ce sont les colonisateurs. Les colonisateurs, parce que pourtant, Bouganda n'a pas choisi la voie armée, la lutte armée.
Il était plutôt pacifique.
Il était plutôt pacifique. Il s'est basé sur la force de la parole, sur la force de la vérité, de l'amour, etc., etc. Bon, il y a d'abord, mais il n'en reste pas moins que, avec la force ou non, on devait soustraire les pays, enfin, soustraire les pays colonisateurs là, d'un bien qui leur appartient.
Ils voyaient tomber leurs privilèges.
Oui, voilà, ils voyaient tomber leurs privilèges. Il y a d'abord les colonisateurs, et puis il y a leur Sibou, vous savez. Bouganda, c'est à Bambari, qu'il a créé le Messane, etc. Ici. Mais je m'excuse, mon cher ami Oyabo, Kengbaka, qui est de l'ethnie. Lengbaka, moi je connais Lengbaka, qui étaient les indicateurs, qui étaient farouchement contre Bouganda.
Et pourquoi?
Ben, mais parce qu'ils étaient à côté, c'était les chefs, vous savez, Bangui ici, c'est une région qui est habitée par les Mbaka, les gens de l'ethnie, et ils veulent toujours être à côté du maître.
C'est des collabos.
Normal, mais les collabos, quoi.
En tout cas, cette campagne s'annonce mouvementée et dangereuse. Le président Bouganda commence à s'en ouvrir auprès de quelques proches. Les mois qui vont suivre risque d'être particulièrement chaud. Nous le verrons demain dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. La mise en onde de The Magazine était assurée par Cyril Etienne, Delphine Michaud, Fouk Nguyen et Alain Foucault. Et vous donnons rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série.